Radio La Clé.
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 Bonjour et bienvenue sur Radio La Clé.
Aujourd'hui, c'est une émission consacrée au thème du harcèlement scolaire.
Au sommaire, une rencontre avec la MDA, la Maison des Ados. Ils vont nous expliquer leur métier et ce qu'ils font.
On vous a préparé également une petite scénette autour de harcèlement.
On sera aussi tout à l'heure au téléphone avec le CPE du collège Saint-Théodile. Il nous expliquera ce qui est mis en place pour lutter contre le harcèlement scolaire. Puisque toute l'équipe est là, on peut commencer et partir directement dans le centre de Lille à la Maison des Ados.
Radio La Clé,
Radio La Clé.
Bonjour, nous travaillons sur la réalisation d'un podcast avec La Clé et la radio RPL autour du thème du harcèlement scolaire. Notre enquête commence par la découverte d'une structure d'aide, la Maison des Ados, qui nous accueille aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter la Maison des Ados, s'il vous plaît ?
Bonjour. Alors oui, la Maison des Ados, c'est un lieu d'accueil pour tous les adolescents qui souhaitent venir ici. On peut y venir qu'on aille bien, pas bien, qu'on se pose des questions ou pas. L'idée, c'est de pouvoir trouver un peu un espace qui soit ressource, où on peut rencontrer des professionnels, différents professionnels. On peut venir aussi quand on est professionnel et qu'on accompagne des adolescents, si on se pose des questions, si on a envie d'avoir des éclairages sur la question de l'adolescence, on peut venir aussi ici. Et puis on peut venir aussi quand on est parent ou famille d'adolescents et qu'on a aussi envie d'avoir des éclairages sur ce que traverse le jeune avec qui on vit.
Qui l'a créé ?
Alors, en fait, ça a démarré d'un programme national qui s'appelle le programme national de soutien aux maisons des ados. Et ça a été lancé à l'issue d'une conférence qui s'appelle la conférence de la famille en 2004. Et c'est lors de cette conférence qu'on a abordé pour la première fois le sort des adolescents et adolescentes. L'objectif, c'était de faire bénéficier les ados d'une écoute spécialisée, comme l'a dit Augustine lors de la première réponse, une écoute qui soit près de chez eux et avec un regard croisé avec plusieurs professionnels. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir orienter vers des prises en charge qui sont elles aussi spécifiques. Donc il y a un appel à projet qui a été lancé le 5 novembre 2009 et la Sauvegarde du Nord y a répondu. Et donc la Maison des Adolescents de Lille, elle est ouverte depuis le 4 janvier 2010. On est financé par le Conseil départemental du Nord et par l'Agence régionale de santé. Et ensuite, en 2017, on a eu l'ouverture de l'antenne de Roubaix. Voilà.
Qui travaille à la MDA ?
Donc à la MDA, on a plusieurs professionnels. On a les travailleurs sociaux. Vous savez ce que c'est que les travailleurs sociaux ? Non ? C'est les éducateurs spécialisés et une assistante sociale. On a des infirmières, trois infirmières. On a quatre psychologues, notamment notre collègue Augustine qui est assise là. On a trois psychiatres aussi. Trois psychiatres. On a une directrice, une secrétaire, un documentaliste. On a un assistant, c'est ça, de direction, de directrice, j'ai dit. Et une maîtresse de maison aussi, hein, faut pas l'oublier. On a des permanences aussi. Après, on a une permanence juridique, une permanence addictologie, une permanence médiation familiale et un médecin nutritionniste.
Qu'est-ce qu'on y fait ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on y rencontre des adolescents, adolescentes. On y rencontre aussi parfois leur famille, on y rencontre aussi des professionnels. L'idée, c'est de proposer principalement, en tout cas, des entretiens individuels avec un éducateur ou une éducatrice. Et après quelques rendez-vous, il arrive que ces professionnels estiment qu'il y ait besoin soit d'une orientation en interne si le suivi ne nécessite pas d'être très long, soit d'une évaluation par d'autres professionnels. Et donc c'est là où ça peut être une réorientation vers psychiatre, psychologue, infirmière en fonction de la problématique. Donc on reçoit les ados, il arrive qu'on fasse des évaluations, on les oriente si besoin. En tout cas, normalement, on ne propose pas de suivi à long terme ici. En dehors de cet espace d'accueil, on y fait aussi des actions de prévention. L'idée, c'est de se rendre parfois dans des établissements ou dans d'autres lieux pour sensibiliser sur différentes questions. Ça peut être des fois la question du harcèlement scolaire, mais ça peut être aussi des questions de genre, vie affective et sexualité. Ça peut être... on a aussi toute une action sur la transidentité. Enfin voilà, on a plusieurs actions de prévention qu'on met en place en fonction des demandes qu'on reçoit. Et on a une dernière mission qui est la mission du partenariat et du réseau, c'est-à-dire qu'on rencontre tous nos partenaires, enfin plein de professionnels, soit qui sont amenés à travailler sur la question de l'adolescence, sur différents champs, ou d'autres, en tout cas pour pouvoir réorienter les adolescents si besoin, ou se faire connaître aussi et que les professionnels puissent s'orienter vers nous.
Le thème de notre émission, c'est la lutte contre le harcèlement scolaire. Et nous avons donc des questions un peu plus précises sur ce sujet.
Tout d'abord, existe-t-il plusieurs formes de harcèlement ?
Oui, alors il existe plusieurs, on peut dire qu'il existe plusieurs types de harcèlement. Le plus connu, c'est le harcèlement scolaire, mais on parle aussi de plus en plus de cyberharcèlement. Puis aussi, on parle de harcèlement de rue. Donc voilà, ça en fait partie. Est-ce que les collègues, vous voulez...
On peut parler d'harcèlement sexuel aussi.
Il y a différentes formes et puis ça dépend aussi comment il se manifeste. Il y a du harcèlement physique, il y a du harcèlement verbal, du harcèlement téléphonique, le cyberharcèlement, donc c'est aussi une forme d'expression du harcèlement. Mais donc voilà, il y a et les différentes formes et les différentes manières dont il va s'exprimer aussi derrière ça.
Comment la MDA aide-t-elle les ados victimes de harcèlement ?
Tout d'abord, on les accueille, on fait un accueil inconditionnel, ça on l'a déjà un petit peu expliqué lors des premières questions. On l'écoute, on ne le juge pas, et puis on essaye de voir avec lui un petit peu voilà, comment ça s'est passé, ce qu'il ressent, et puis on met rapidement les adultes qui gravitent autour de l'ado en lien, et on voit ce qui est possible de faire directement avec les adultes. Si ça se passe dans l'établissement scolaire, on va contacter le directeur ou la directrice, ou le ou la CPE par exemple.
Bon, je pense que François a un point de vue d'éduc et donc très dans le présent. Moi, je vais, en tant que psychologue, je vais plutôt traiter sur les conséquences du harcèlement et du coup le mal-être et accompagner le jeune là-dedans, essayer d'identifier ce qui a pu se jouer pour lui et comment on peut faire en sorte qu'il aille mieux aujourd'hui. Et puis peut-être un peu en amont de tout ça, ce qu'on fait aussi pour lutter contre le harcèlement, c'est de faire donc les actions de prévention dont je parlais tout à l'heure. Et comme cette émission de radio, par exemple, où on va venir parler du sujet et amener des discussions autour de ça pour sensibiliser les personnes sur la question du harcèlement. Ça permet à la fois de le prévenir, à la fois de mieux l'identifier quand il se met en place, d'avoir un peu des billes, des outils sur comment on peut agir pour lutter contre ça.
Quel est le parcours de l'ado chez vous ?
Le parcours de l'adolescent chez nous, il est varié en fait, hein. Il est différent d'un adolescent à un autre en fait. Ils sont orientés soit par l'infirmière du collège, la psychologue du collège aussi. On a les adolescents qui viennent aussi parce qu'ils ont entendu parler de la maison de l'adolescent par un copain, par un ami. Et ensuite, nous quand on les reçoit en fait, les travailleurs sociaux, assistants sociaux ou sociaux et éducateurs, on est les premiers accueillants. Et en fonction de l'évaluation qu'on fait, et en fonction de la problématique de l'adolescent ou de son mal-être, on oriente l'adolescent. Soit on le reprend en rendez-vous une ou deux fois, soit on l'oriente vers la psychologue ou l'infirmière en fait, qui fait notre évaluation pour voir s'il a besoin d'un psychiatre ou nutritionniste, voilà, tout ce qui est en rapport avec le corps médical en fait. C'est un peu à peu près ça, je ne sais pas si...
Oui, peut-être rajouter que les orientations que l'on propose aux ados, c'est pas des orientations qui sont seulement à l'interne, mais on peut aussi orienter vers l'extérieur, vers des associations ou des structures qu'on appelle du droit commun, comme par exemple des centres médico-psychologiques, des clubs de prévention, d'autres associations. Voilà.
Quels sont les effets ou les résultats chez les ados ?
Les effets, ouais, c'est pareil aussi que le parcours. En fait, ça peut être au bout de du premier entretien, comme du deuxième. On a les adolescents qui, après, se disent légers, se sentent mieux, se sentent bien, se sentent écoutés aussi. Parce que quoi, ils arrivent parce que voilà, ils ont le sentiment que à la maison ou au collège, ils sont, ou au lycée, ils ne sont pas écoutés. Donc, ils se sentent écoutés. Ils redemandent un autre rendez-vous ou pas. Ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que généralement, les adolescents, en fait, en partant, après un entretien, sont plus légers, en fait. Ils ont vraiment envie de revenir et c'est comme ça qu'on voit les effets aussi hein, sur eux. Quand ils redemandent à revenir ou quand ils partent en nous disant merci, ou ils se sentent plus légers, en fait, détendus.
Pensez-vous que le harcèlement à l'école est plus important qu'avant ?
C'est une question difficile à répondre parce qu'il y a très peu d'études avec des chiffres fiables qui sortent sur la question du harcèlement, notamment du harcèlement scolaire. Les dernières études remontent à plusieurs années, en tout cas les chiffres. Pour autant, ce qu'on remarque, c'est que c'est un sujet qui est beaucoup plus d'actualité et dont on parle beaucoup plus, ce qui permet aussi de mieux le détecter. Donc on pourrait avoir l'impression peut-être qu'il y en a plus. En réalité, est-ce qu'il y en a plus ou est-ce qu'on en parle plus ? Je ne sais pas. Mais voilà. Et surtout, la question du cyberharcèlement et du harcèlement téléphonique qui est venue transformer la forme de harcèlement scolaire. Avant, ça commençait à 9h du matin et à 18h, quand on rentrait chez soi, c'était fini. Maintenant, le cyberharcèlement et le harcèlement téléphonique fait qu'il y a quelque chose qui ne s'arrête pas, même dans le harcèlement scolaire. Ça peut continuer à la maison, ça peut continuer. Et donc, ça amène des formes parfois plus graves de harcèlement que ce que c'était avant.
Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des ados et de les aider ?
Alors pour moi, donc moi je suis éducateur spécialisé, je vais peut-être régénéraliser la question, mais en tout cas c'est ce que ça m'apporte de faire ce boulot-là, c'est vraiment le plaisir de la rencontre en fait, le plaisir de la relation à l'autre et de la découverte. Moi je suis quelqu'un de très curieux et je pense que ça vient répondre à ce besoin que j'ai moi d'être en lien avec les autres et de les connaître. Après, c'est sûr qu'il y a quelque chose de très satisfaisant dans la relation d'accompagnement. Donc, c'est de se dire que, bah voilà, à un moment dans la vie de quelqu'un, d'un ado ou d'un adulte, je peux venir, lui apporter quelque chose, en tout cas, et peut-être semer quelque chose. On prend souvent cette image-là, hein, qui est un peu surannée, mais en tout cas de dire, voilà, on sème une petite graine et puis peut-être qu'un jour ça va venir créer quelque chose chez l'autre. Voilà, en tout cas pour moi c'est ça. Et puis après, plus spécifiquement, parlons sur la question des ados, je pense que c'est cool aussi, il y a quelque chose de... On vieillit un peu moins vite, je pense, d'être avec vous tous les jours, quoi.
Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter, ce n'est que c'est toujours un plaisir d'être avec les adolescents et comme dit François, on se sent jeune. Moi je me sens jeune quand je suis avec vous. Je me dis, ah bah je vieillis pas. Qu'est-ce que t'as dit?
Bon, je crois que mes collègues ont dit pas mal de choses. En tout cas, c'est sûr que le processus adolescent, ça peut être une période particulièrement intense où on se sent aussi souvent en opposition avec la société, avec nos parents, etc. Et j'ai l'impression que la maison des ados, elle offre aussi vraiment un lieu tiers qui permet de faire un peu alliance avec l'adolescent. Et c'est une période assez chouette à accompagner aussi. Intense, mais chouette.
Aurais vu une belle histoire dans une anecdote à nous raconter.
Moi, j'ai une belle histoire à raconter. C'est une jeune adolescente de 17 ans qui est arrivée sans rendez-vous, en fait, hein, en urgence, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle avait un mal-être et tout au domicile. Hein, et elle avait une grande frustration. Et lors de l'entretien, voilà, je ne raconte pas l'histoire de l'adolescente, bien sûr, forcément, mais je vais dans les grands titres. Elle se rend compte, en fait, que c'est une adolescente qui a été adoptée. Elle est haïtienne. Et à l'âge de 15 ans, elle s'est rendue compte en fait, qu'elle était différente des autres. Le métissage en fait, était difficile pour elle et autour d'elle, c'était que des peaux blanches, je veux dire, des Français à peau blanche. Donc, c'était difficile pour elle et ça, c'était vraiment un mal-être chez elle. Elle ne se sentait pas belle, elle s'auto-critiquait tout le temps. Donc, de fil en aiguille, voilà, l'infirmière et moi, on lui a fait comprendre qu'elle aussi, elle avait sa beauté, qu'elle était appréciée par les autres. C'était difficile. Et pour l'aider, en fait, on a utilisé la peinture sur toile où je lui ai demandé de déposer son mal-être, en fait, sur la toile. Elle a fait un très, très beau dessin. Elle est venue deux fois. Elle a continué son dessin. Et à la deuxième séance, elle m'a dit, la prochaine fois que je viendrai, ce sera la dernière. Et elle est arrivée à la dernière séance. Elle a peint. Et quand je lui ai demandé ce qui se passe, elle m'a dit, aujourd'hui, j'ai peint, mais j'ai enlevé certaines images de ma toile. Et je lui ai demandé pourquoi ces images, elle m'a dit, parce que c'est les larmes d'Haïti que j'ai enlevées. En fait, elle a vécu le tsunami en fait, à l'époque et elle est venue dépeindre les larmes d'Haïti. Et pour moi, c'est une très belle histoire. Elle est partie avec sa toile. Et je garde cette histoire en mémoire. Voilà le beau cadeau que j'ai eu à la MDA. J'y suis encore, hein, je ne suis pas partie. Hein.
Pour la suite de notre enquête, nous allons travailler sur une scénette que nous allons mettre en scène et jouer. Lors de notre prochaine visite, nous vous ferons écouter notre travail et nous aimerions recueillir vos réactions à cette situation.
Radio La Clé, Radio La Clé.
Retour sur le plateau de Radio La Clé. Nous avons travaillé sur le thème d'harcèlement et nous avons choisi d'écrire et de jouer un petit scénette.
La scène se passe dans les cours de récréation d'un collège.
Hey, regarde ça.
C'est qui?
Bah, samedi, il y avait une soirée chez Jordan. Et là, sur la photo, bah, c'est Lola. Lola qui embrasse Marie.
Mais non, tu déconnes.
Non, non. À un moment, je vais dans le garage prendre des coca et je tombe sur Lola en train d'embrasser Marie. Clac, je sors le tel et je shoot.
Et elle t'a vu?
Ouais, c'est parti en pagaille. Elle m'a demandé de supprimer la photo. Enfin, tu vois le truc.
Putain, c'est pour ça que Lola est pas là ce matin.
Ouais, elle a publié sur Snap qu'elle était malade. Tout ça, quoi.
Et tu vas en faire quoi de la photo?
Bah, je vais lui mettre le seum. Elle a publié sur Snap. Tiens.
Vous regardez quoi?
Rien.
Allez, fais voir, c'est qui? Lola et Marie, et donc, pourquoi t'as cette photo?
C'était à la soirée de Jordan, mais Lola est lesbienne, quoi.
Bah oui, alors ça change quoi? Moi je le sais depuis au moins un an, c'est sa vie privée.
Il a dit qu'il voulait publier la photo sur Snap.
Bah c'est pas très malin, c'est du harcèlement ça, Thibaut. Ça va t'apporter quoi de faire ça?
Bah c'est pour se marrer, quoi.
Bah c'est pas très drôle, tu risques de la blesser, elle a sûrement pas envie qu'on étale sa vie privée sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça.
Ouais, bah...
Bah et alors, hop, tu supprimes.
Alors, qu'en pensez-vous?
Pourquoi le harceleur harcèle-t-il? La réaction des témoins est-elle la bonne?
Pour avoir les réponses à ces questions, nous sommes retournés voir les professionnels de la maison des ados.
Comment réagir face à cette situation?
Moi, je pense que la personne qui est venue à un moment donné demander ce qui se passait, je trouve qu'elle a hyper bien réagi finalement. L'idée, c'est de casser un petit peu cette mécanique-là, de se dire bah voilà, il faut un tiers qui soit là pour essayer de faire prendre conscience aux autres que ce qu'elle a fait, c'est pas correct, c'est pas normal. Donc je trouve que voilà, cette personne a plutôt bien réagi.
Quel est le but du harceleur? Pourquoi fait-il ça?
À ton avis, pourquoi on harcèle?
Je sais pas.
T'as pas d'idée? Il y a plusieurs raisons, je pense que ça dépend aussi de l'âge. En tout cas, il y a souvent dans le harcèlement une intention de faire du mal à l'autre. Et après, des fois plus largement, quand on travaille sur une dynamique de groupe, parfois le harceleur, il a l'impression que c'est le seul moyen qu'il a pour impressionner les autres ou pour faire partie d'un groupe. C'est un peu les réponses que je peux donner.
Comment peut-on savoir si quelqu'un se fait harceler? Quels sont les signes?
Il replie sur lui, c'est tout en seul à la cour de récréation, il ne parle plus aux autres copains, il ne vient plus en cours.
Ça, c'est un peu compliqué comme question, parce que souvent les signaux du harcèlement, c'est des signaux de mal-être, et du coup c'est difficile de savoir si c'est lié au harcèlement ou à autre chose. En tout cas, dès qu'il y a des signes de mal-être, peut-être qu'on peut poser la question déjà, et ouvrir un espace de parole autour de ça. Après, en général... au sein d'établissements, en tout cas, des adultes, c'est des choses qui se voient entre élèves, entre adultes, etc. Et donc, porter un point de vigilance sur ces situations, ça permet aussi d'avoir des clés. Voilà, je pense que les autres élèves, en général, ils savent et que ouvrir un peu la parole et le dialogue dessus, ça permet d'avoir aussi plus d'infos.
Dans les établissements scolaires, les élèves... qui commencent à pas être bien, à montrer des signes, comme tu le dis, Augustine, de mal-être, c'est là toute l'importance du rôle de l'adulte pour venir casser ce cercle-là et ce cycle-là, cet engrenage, et de pouvoir aller vers l'autre pour lui offrir la possibilité de parler. Et donc, oui, comme tu le dis, poser la question et voilà, se sentir légitime en tant qu'adulte et de sa responsabilité d'adulte, d'aller vers l'autre pour lui poser la question et pour savoir... les raisons pour lesquelles il semble ne pas bien aller.
Comment moi, en tant qu'ado, je peux l'aider?
En tant qu'ado, tu peux l'aider en allant vers lui ou vers elle, en allant lui poser des questions sur bah voilà, j'ai eu l'impression qu'il se passait ça, ou j'ai entendu des choses, ça dépend un peu de la situation, mais si tu as vu des choses sur les réseaux sociaux, ou ça si tu as entendu des choses auprès d'autres élèves de l'établissement, bah, c'est te dire voilà, moi je vais aller vers elle et je vais lui poser la question, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, et voilà, tu peux te faire aussi le centre un peu de tout ce que tu entends, et aussi d'aller, si l'élève qui se fait harceler n'est pas en capacité de le faire, toi d'aller alerter un adulte responsable au sein de l'établissement.
Et sinon, comment avez-vous trouvé notre jeu d'acteur et d'actrice ?
Bah, moi, je me suis vu à côté de vous. Je trouve que c'était vivant. Je vous le disais tout à l'heure en aparté, mais je vous ai écouté les yeux fermés et j'avais l'impression de vous voir en scène. Donc c'est plutôt, je pense, bon signe. Et ça veut dire que vous avez bien bossé, quoi. Voilà.
Écoute, je vous dis la même chose. Vous avez de vrais acteurs et on s'y croyait. Moi, j'avais l'impression d'être à côté de vous et de vous entendre, en fait, de vivre avec vous, en fait, hein, d'être votre copain, votre copine, en plein cours de récréation et vivre la scène. Donc, bravo.
Moi, je trouve que c'était sympa parce qu'on sentait aussi votre personnalité un peu ressortir dans le jeu d'acteur, d'actrice, notamment ce qu'on vous a connu depuis quelques fois, et je trouvais qu'il y avait des choses qui ressortaient. On arrivait à retrouver qui disait quoi. Enfin, il y avait un truc un peu sympa là-dessus.
Bravo.
Vous écoutez Radio La Clé.
Et avant de retrouver M. Bakker, le CPE du Collège Saint-Odile de Lombrochard, une petite pause musicale. On va écouter Soprano avec Fragile.
Yeah. Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30 élèves, trouver sa place n'était pas si facile. Pour elle de se faire des amis était quasi impossible. Tu connais les gosses entre méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plaies de ses complexes avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la surprise générale, elle commet l'irréparable.
Elle a vu ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh. Elle qui ne voulait qu'être aimée. Oh, 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 oh.
On vit l'époque du virtuel, des tutos pour du rimmel, Snapchat, Snapchat. Dis-moi qui est la plus belle. Pour elle, être aimée c'est d'être likée. Donc elle s'entraîne devant sa glace à faire un selfie. Filtre beauté, quelques cœurs sur sa photo, mais surtout des commentaires, des moqueries, des critiques, des insultes, des émojis pervers. Toute cette violence gratuite devient pour elle insupportable. Donc elle est insupportable et comme elle irréparable.
Elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Oh, 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 oh.
Tu me partages tes rêves et tes doutes. Que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Qu'importe ce que dit ou pense le monde, tu es la plus forte et la plus belle à mes yeux. Ne te laisse jamais rabaisser par les autres. N'oublie pas qu'elle avait ce regard innocent qui n'attendait qu'à être aimé. Mais la vie fut autrement, si fragile. Tous ces mots ont fini par la briser. Elle qui ne voulait qu'être aimée.
Oh, 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 oh.
Pour continuer notre enquête, on vous propose d'appeler Monsieur Bakker, c'est le CPE du collège Saint-Odile de Lambersart.
On va lui poser des questions sur son métier et bien sûr sur le thème de l'harcèlement scolaire.
Bonjour les jeunes.
Bonjour.
Je vous écoute.
Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer ce que vous faites comme métier au collège ?
Alors, je m'appelle Arnaud Bakker, je suis cadre éducatif et CPE dans un collège et un lycée de Lambersart. Et donc du coup, je m'occupe de tout ce qui est discipline dans la classe et hors la classe. J'essaye d'animer la vie scolaire. Des fois, c'est compliqué, mais on y essaye, on y arrive avec des jolis projets. Et puis voilà, c'est un gros bahut. Il y a 1700 élèves en tout. C'est un gros bahut.
Bonjour, nous travaillons sur une émission autour d'harcèlement scolaire. Pouvez-vous nous dire ce qui est mis en place dans les collèges ?
Alors, dans les collèges, il y a plein de choses qui se passent. Il n'y a pas réellement de ligne de conduite. Il y en a une qui émane directement du ministère de l'Éducation nationale. Après, on se greffe là-dessus, on essaye de faire avec les situations propres aux établissements. Je vais parler de mon établissement. On a des campagnes de sensibilisation, on essaie de travailler avec des associations. On met en place sur le niveau 5e, on a la semaine de la santé où on parle des réseaux sociaux, du rapport au téléphone portable et l'impact que ça a sur les vies des jeunes. Et en 4e, par exemple, on a la semaine de la citoyenneté qui se passe en ce moment où les élèves ils apprennent où on leur donne des pistes pour devenir les citoyens de demain, parce que c'est vous les jeunes qui êtes les citoyens de demain. Et donc du coup cette semaine par exemple ils essayent de donner de leur temps pour rendre leur collège un peu plus propre et présentable. Ils réfléchissent un peu à comment vivre correctement et le plus sereinement possible leur collège. Parce que c'est des choses, il y en a qui vivent des choses pas faciles. On essaye d'intervenir. Moi, je sais que j'interviens souvent dans les classes quand il y a un gros souci. Et puis après, on essaie de faire de la médiation. Mais tout passe par la communication. Il faut communiquer.
Nous avons entendu parler du programme phare. Comment ça se passe concrètement dans les collèges ?
Alors, j'ai entendu parler du programme phare aussi. Dans mon établissement, on n'utilise pas le programme phare, on utilise un autre programme qui est sensiblement le même. Mais en gros, on est alerté par une situation de harcèlement, on reçoit le jeune qui est victime et qui nous parle un peu. Ça prend pas plus de entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, on essaye de médiatiser, on fait des groupes de parole, on a des élèves qui sont bienveillants, on en a deux. Ensuite, on a des élèves influents, c'est-à-dire qui peuvent influer sur la bonne personne. On a des élèves neutres, qui font partie de la classe, par exemple, et on a des élèves qui ennuient la victime. Et du coup, tout ce petit monde-là a le droit à un entretien et chacun, à sa façon, on va devoir faire un pas vers l'autre. Et puis après, on les revoit, moi ou quelqu'un de l'équipe, un membre de l'équipe éducative. Ça peut être le prof principal, ça peut être un éducateur de vie scolaire, ça peut être l'infirmière, ça peut être le directeur adjoint, le directeur, peu importe, ou la psycho-scolaire. Et ça se fait sur une quinzaine de jours. Et bien souvent, la réponse et la bonne réponse vient des jeunes eux-mêmes. Quand ils se rendent compte que, ils ont été trop loin et que ça fait mal, bien souvent, ça se remet dans le bon sens.
Quel est l'impact des réseaux sociaux sur l'harcèlement scolaire ?
Je pense que entre 90 et 95% des situations de harcèlement scolaire partent des réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, les élèves, n'ont pas forcément été éduqués à avoir les téléphones entre les mains et à savoir s'en servir correctement, sans blesser, et que je reste persuadé que il y a une très grande majorité qui pense que derrière leur écran, ils ont le droit de tout dire et de tout faire. Et parce que ça semble facile, parce que c'est pas concret, parce que la personne à qui on parle, elle n'est pas en face de nous. Et je pense que l'impact des réseaux sociaux sur le harcèlement scolaire, il est énorme pour moi.
Comment peut-on aider à libérer la parole des ados?
Il faut qu'il y ait des lieux de parole qui soient visibles de tous. Il faut qu'il y ait des personnes ressources, qu'on appelle des personnes ressources. Il y a des personnes qui sont là souvent, qui sont là pour ça et qui ont une écoute, on va dire, empathique et active. Je parle souvent de mes éducateurs du scolaire, du professeur principal avec qui la relation peut être hyper en confiance, l'infirmière, la psychologue scolaire, l'assistante sociale dans les établissements, un professeur avec qui on s'entend bien. Et ben ces personnes-là sont aptes et capables de recevoir la parole, et une fois que les élèves savent ça, ben ça fonctionne, en fait. Ça fonctionne. Mais c'est vrai que libérer la parole, c'est ce qu'il y a de plus dur. On a des élèves qui restent 6 mois, 7 mois en ayant une grosse boule au ventre parce qu'ils n'osent pas parler, parce que il y a des fois, c'est compliqué de parler, parce qu'on est trop embêté ou on a trop la pression. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui déclenche, c'est l'absentéisme, c'est les notes qui baissent. On fait de plus en plus de bêtises pour pas dire qu'on va pas bien. Ben, tout ça, c'est des signaux d'alerte qui nous, après, ben, on va aller chercher les élèves et on leur dit, ben, il y a un truc qui va pas, quoi. T'as le droit d'en parler. Pas forcément avec moi, mais t'as le droit d'en parler avec qui t'as envie et qui t'es en confiance.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
De rien.
Radio La Clé.
Radio La Clé. Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.
Pour aller plus loin, nous pouvons vous conseiller la lecture de
Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l'école de Nadège Larcher.
Le livre pocket d'harcèlement scolaire de Emmanuel Piquet.
Malaise au collège, 4 histoires de harcèlement de Véronique Cauchy et de Mathieu Demuison.
Ces livres sont disponibles à La Clé.
C'est la fin de cette émission spéciale de Radio La Clé, autour du thème de l'harcèlement scolaire. Une émission préparée et présentée par Manel, Donara, Abdelrami, Mohamed, Krishma, Ergis, Rouaif, Arnaud, Cécile.
Nous remercions toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, et en particulier nos invités.
La Maison des Ados, Angeline, François et Augustine, et Monsieur Arnaud Bakker.
Cette émission est disponible en podcast sur le site internet de notre radio partenaire, rpl.radio.
À très bientôt sur Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.
Radio La Clé.